Ce soir, au Énervé la suite, on part en mer. Mais avant de commencer, petit tour de table avec nos invités pour les présentations et pour caler les micros de chacun et de chacune. Je commence par vous, Inès Leroux, vous êtes documentariste, journaliste d'investigation et co-autrice de la BD documentaire Algues vertes, l'histoire interdite. Ça vous va comme présentation ?
C'est tout à fait ça.
Ah ben c'est vraiment nickel. Arnaud Gossman, vous êtes avocat en droit de l'environnement.
C'est parfait.
Très bien. Élodie Martini-Cousty, vous êtes militante, pilote du pôle océan-mer et littoraux de la Fédération France Nature Environnement.
Absolument.
J'ai tout juste ou presque. Yann Kefelec, Goncourt 1985 pour Les Noces Barbares, auteur entre autres des dictionnaires amoureux de la Bretagne et de la mer, puisqu'il y en a eu deux, paru chez Plon. C'est pour vous ?
C'est parfait.
Eh bien, on y va, générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien, rebonsoir ou bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour se énerver la suite au pied marin ce soir. Le week-end dernier, réunion des ministres de l'environnement du G20 au Japon et ils sont parvenus, dit-on, à un accord de réduction des déchets plastiques en milieu marin. Alors, on ne sait pas grand-chose de cet accord, mais quoi qu'il en soit, c'est un tournant quand même dans la lutte contre un de ces nombreux fléaux que nous faisons subir à nos mers et à nos océans. Autre fléau, les algues vertes qui, en Bretagne, ont tué une quarantaine d'animaux et trois hommes, des algues tueuses qui sont le symptôme d'un mal plus profond, celui d'une agriculture industrialisée qui a particulièrement touché, en France, la Bretagne. Face aux algues vertes, aux pollutions plastiques et autres menaces sur les littoraux, que peut la société civile ? Quel rôle peuvent avoir les lanceurs d'alerte ? Quel combat en justice ? Et que peut-on attendre des politiques pour soigner la mer ? Autant de questions que l'on va se poser ce soir avec ce marin d'eau douce de Benoît Lagane dans le Énervé la suite intitulé « Des algues vertes au plastique, l'océan a le mal de mer », c'est votre titre.
J'aimais bien aussi « La mer à mort
». C'est le moins bien. Le nouveau rendez-vous, elle est à bâbord toute.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Laurent.
Vous me faites peur.
Il y a des jours, oui, j'aimerais tout plaquer, quitter Paris, me mettre au vert, me lancer dans la permaculture.
C'est pas moi qui vous en empêcherai.
Construire une cabane. Vivre autrement, vivre d'amour, d'eau fraîche, de vin naturel et de produits bio. Oui, parce qu'il y a des jours, comme ce midi, par exemple, pour mon déjeuner, je me suis vraiment, mais alors vraiment détesté. Ma contribution à l'environnement était, dirons-nous, proche du néant, du zéro pointé, bon qu'à être balancé à la flotte au fin fond de l'océan. Au menu, un yaourt, certes conditionné dans un pot en carton, mais consommé avec une cuillère en plastique. Mal.
Vous voulez quoi, avec une paille ?
Avec une cuillère en bois, ou je sais pas, ou avec des doigts. Et un sandwich en plastique, enfin au jambon. Enfin, c'est tout comme cette viande de porc est restée tellement longtemps sous vide que dans un pré, je me dis que ce jambon était en plastique. Un cochon qui plus est, issu d'une agriculture industrielle responsable, comme le démontre votre enquête, Inès Leroux, de la multiplication de ces algues vertes, de ce poison remarqué depuis les années 80 sur certaines plages bretonnes. Et il y a 10 ans, d'ailleurs, en 2009, le 10 avril précisément, la grande émission respectée de France 3 Thalassa mettait les pieds dans les algues. Et ils avaient diffusé à l'époque un documentaire qui a fait réagir violemment certains élus bretons. Dans ce sujet, on pouvait entendre notamment Pierre Philippe, médecin urgentiste au centre hospitalier de Lannion, un des premiers à avoir alerté sur la toxicité de ces algues vertes. Vous l'avez mis en point de départ de votre bande dessinée, Inès Leroux. On l'écoute dans un extrait de ce Thalassa.
La dangerosité donc du sulfure d'hydrogène, ou hydrogène sulfuré, c'est la même détermination. C'est un gaz qui est émis donc par les algues vertes en putréfaction, et c'est un poison cellulaire violent. À concentration minime, il entraîne une irritation des voies respiratoires et oculaires. À concentration plus élevée, il entraîne des complications respiratoires et neurologiques. C'est un poison qui s'apparente au cyanure, donc c'est de l'ordre de la minute ou de quelques minutes à très forte concentration.
Alors, on va revenir dans un instant sur votre enquête, Inès Leroux, mais ma première question, elle est pour vous, Yann Kefelec, vous, l'amoureux de la mer, de la Bretagne. Vous avez consacré donc 2 dictionnaires amoureux. Ce dossier sur les algues vertes, comment vous le percevez en tant que breton et marin ?
Je le perçois d'abord en tant que terrien breton.
J'ai pu constater moi-même la présence d'algues vertes un peu partout le long du littoral breton, particulièrement dans la baie de Penthrèse, où effectivement une odeur épouvantable chaque matin se répandait dans une région qui déjà était touchée par une eau douce pas terrible, c'est-à-dire on ne pouvait pas boire l'eau parce qu'elle était polluée, on ne pouvait pas se baigner dans la mer parce qu'il y avait les algues vertes. Donc ça posait un énorme problème à toute cette population estivale qui voulait occuper cette magnifique plage de Saint-Nic-Penthrèse. Il y avait des algues vertes, ça sentait mauvais, tout le monde s'inquiétait, personne n'y allait. Et on se posait des questions qui sont magnifiquement abordées et traitées dans le superbe livre de notre ami, dont je n'ai pas encore le nom en tête.
Ines Leroy,
Histoire interdite des algues vertes.
Quelles sont les questions que vous posiez justement et qui sont...
Bien savoir si c'est vraiment dangereux, quel était le degré de toxicité pour la vie humaine. Moi j'ignorais que ça anesthésiait le nerf olfactif, le mien n'était pas du tout anesthésié par ces odeurs-là, mais c'est vrai que quand on a des enfants, soi-même d'ailleurs, quand on a envie d'aller à la plage et puis de respirer cet océan, cet air océanique comme ça qui nous arrive, qui a traversé tout l'océan pour arriver dans ces régions absolument superbes, on est sidéré en fait que l'océan ait mauvaise haleine et qu'il soit irrespirable.
Comment l'opinion publique peut apprendre des choses véritablement sur ce phénomène des algues vertes? Parce que vous parlez dans votre BD de désinformation orchestrée pour tromper l'opinion publique, Inès Leroy.
Oui, c'est ce qui m'a frappé. Moi, quand j'ai découvert le dossier des algues vertes en Bretagne, j'ai appris qu'il y avait des morts humaines, des morts animales. Je n'en avais jamais entendu parler. Et j'ai appris ça par des citoyens très engagés, des associations environnementales. Et quand j'en ai parlé autour de moi, parce que je m'étais installée en Bretagne pour enquêter justement sur l'agriculture, je vivais dans un hameau agricole du centre Bretagne, qui est près du village de Melle-Pestivien. Je m'y suis installée en 2015, j'y ai vécu jusqu'en 2018. Et donc, je parlais comme ça, quand j'ai commencé à enquêter, avec des gens que je croisais. Et la plupart des Bretons que je croisais me disaient que non seulement les algues n'avaient jamais tué, mais aussi qu'elle ne provenait pas de l'agriculture, que c'était pas vrai, que ces deux liens de causalité étaient erronés. Et je me rappelle même une fois avoir rencontré un peu par hasard le ramasseur d'algues vertes qui avait sauvé le cavalier qui en 2009 s'est enlisé et a été retrouvé inconscient dans une vasière d'algues vertes. Et lui m'avait dit « Ah non, mais ça n'a rien à voir. » Enfin, en fait... Son cheval s'est enlisé, il a été étouffé par le sable et le cavalier a dû prendre un coup de sabot, ce qui lui a fait perdre connaissance. Mais les algues vertes...
Et la marmotte, elle replie... oui, c'est ça, la marmotte, elle replie
dans le papier d'alu.
Dans le papier d'alu, oui, c'est vraiment dingue.
Et les algues vertes, enfin, qu'est-ce que vous avez, vous, journaliste, à venir nous parler d'algues vertes? Vous faites croire aux touristes que chez nous, c'est Tchernobyl, mais pas du tout. Les algues vertes ne représentent pas de danger. Et donc, je lui avais demandé, mais... Alors pourquoi vous les ramassez? Et là, il y avait eu un grand silence et il m'avait répondu « Alors ça, c'est une bonne question.
» À laquelle je n'ai pas encore d'éléments de réponse, mais je l'aurai quand je regarderai votre BD, la BD que vous allez écrire dans quelques années.
S'il m'avait donné un élément de réponse, il m'a dit « Parce que je pense qu'on peut glisser dessus.
» Et Élodie Martinique, comment ça s'explique scientifiquement l'apparition de ces algues vertes? Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on sait de ça, justement?
Alors en fait, les algues vertes sont le produit qui résulte de la culture, de l'élevage surtout intensif des cochons en Bretagne. 60% des élevages de cochons sont situés en Bretagne, Nord. Et avec ce qui est produit comme lisier qui est épandu dans les champs bretons, le ruissellement de l'eau de pluie, on retrouve un trop-plein d'azote dans les eaux. Et au contact du soleil sur les plages, ce trop-plein se transforme en algues vertes. Et en effet, c'est une pollution qu'on connaît en Bretagne, parce que c'est une vraie pollution, hein, depuis plus de 40 ans. Et il y a des associations membres de France Nature Environnement, comme Eaux et Rivières de Bretagne, qui se battent pour la reconquête de la qualité des eaux douces et d'autres pour la reconquête de la qualité des masses d'eau côtières, qui dépensent leur énergie et qui font des recours en justice contre des extensions de porcheries encore aujourd'hui. Donc ce sujet est toujours d'actualité, c'est-à-dire que tant qu'on mangera du cochon élevé de façon intensive issus de ces
élevages. Et qui finiront dans mon sandwich, voilà.
On aura des algues vertes. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter de consommer. C'est un acte citoyen de consommer du cochon élevé industriellement. Il y en a qui est élevé en Bretagne de façon plus artisanale, bien meilleure, qui vous coûtera le même prix en circuit court. Donc, c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui.
Arnaud Gosseman, vous êtes avocat en droit de l'environnement. Vous avez lu la BD aussi d'Inès Leroux. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce travail d'enquête?
D'abord, je souhaitais, comme Yann Kefelec, en dire du bien, parce que c'est un sujet qui est difficile à traiter. Il y a déjà eu des sujets environnementaux comme les OGM traités par bande dessinée, mais c'est toujours un exercice, à mon avis, très délicat, parce qu'il ne faut pas donner aussi le sentiment au lecteur qu'il y aurait un aspect fiction, parce que là, tout est vrai.
Ah ouais, non, c'est vraiment un travail documentaire. Ouais.
Et c'est vrai que, en fait, quand j'ouvre une BD sur un sujet environnemental, je vais peut-être avoir une réserve qui a été levée au fil des pages, parce que c'est vrai que c'est documenté, c'est construit. Puis ce que j'ai apprécié aussi, c'est que vous n'imposez pas un point de vue au lecteur, hein, vous lui présentez un nombre de faits, donc c'est vraiment un travail, à mon sens, journalistique, qui est présenté ici au lecteur. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une fiction, c'est vraiment ce qui est arrivé. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans ce livre, et qui a été retenu d'ailleurs par la justice, c'est l'aspect responsabilité collective aussi. L'État français a été condamné à de nombreuses reprises par les juridictions administratives à Nantes, hein, parce que il a engagé sa responsabilité pour inaction, hein, pour carence fautive. L'État français, c'est pas le gouvernement, c'est nous tous, l'État français. Et donc le juge, effectivement, a bien vu qu'il y avait une chaîne de responsabilité assez large. On parle de celui qui mange le sandwich, on parle de celui qui va l'élever, on parle de la banque aussi qui va créer des endettements massifs chez des éleveurs. Bref, tous les acteurs du système, à un moment donné, se mettent à dysfonctionner, comme dans l'affaire du sang contaminé, comme dans l'affaire de l'amiante. On a des problèmes systémiques qui mènent à ce qui est objectivement un drame absolument incontesté, qui est cette pollution aux algues vertes aujourd'hui.
Yann Kefelec, ce que démontre aussi toute cette enquête, c'est qu'il y a tout un système, le miracle breton, entre guillemets, économique, qui est remis en cause forcément par ce genre d'informations. Comment vous, qui regardez, qui analysez la Bretagne depuis longtemps, vous regardez ça sur la façon dont la Bretagne, dont vous dites que les Bretons, ils peuvent changer facilement, ils sont prêts à changer facilement et à bouger facilement. Comment, ce qu'il faut que la Bretagne fasse pour que ça change, justement?
Alors, je ne sais pas comment elle doit faire, mais une chose est sûre, c'est qu'on a tendance à diaboliser les Bretons, comme ça, symbole de cette agro-industrie qui détruit la mer, finalement, et qui détruit les plages. En même temps, ce sont des gens extraordinairement courageux. C'est, comme je le disais tout à l'heure, on leur dit « faites du poisson », ils partent en mer, ils pêchent, ils meurent en mer, tout le monde s'en fiche plus ou moins parce que c'est une tradition chez eux. On leur dit « faites du cochon », ils sont excellents également, ils font de l'agriculture intensive parce que c'est vraiment dans cette voie qu'on les a engagés. On les a engagés à s'endetter et à produire le maximum, voilà, parce que c'est également le bien collectif. Maintenant, ils passent pour des gens qui polluent pour de grands pollueurs. Et incontestablement, ça pollue. Le cochon intensif pollue. Le lisier, c'est une catastrophe. Moi, quand j'avais une maison, encore une fois, dans la baie de Douarnenez, tous les soirs, les épandages de lisier empuantissaient cette atmosphère que l'on aurait voulu exclusivement atlantique et maritime. Et c'était en contradiction totale avec l'idée qu'on se fait de la région. Ce qu'il faut faire, moi je suis assez d'accord avec... Il y a aussi quelque chose qui est formidable chez les Bretons, c'est le modèle familial. C'est un modèle qui est excellent à la fois pour l'agriculture, pour l'éducation des enfants et pour l'enseignement, pour les écoles. S'il y a tellement de bons étudiants en Bretagne, de bons élèves en Bretagne, c'est aussi parce que le modèle familial tient le coup. Il pourrait parfaitement tenir le coup, en effet, pour ces fermes, pour cette agriculture qui permettrait de revenir à des pratiques vertueuses et à du cochon que l'on dans lequel tout, enfin, serait bon.
On va partir plus amplement en mer et dans les océans dans quelques instants, mais au programme tout de suite, la plage, le soleil, le surf, donc la Californie et la pop magnifique des Beach Boys. Don't go near the water. Don't you think it's sad? What's happened to the water? Our water's going bad. Oceans, rivers, lakes and streams have all been touched by man. Poison floating out to sea now threatens life on land. Don't go near the water. Ain't it sad?
message of this song. Let's all help the water right away. Do what we can in order. Let's start today.
Rendez-vous.
On ne savait pas au départ que les algues vertes tuaient.
La justice maintenant reconnaît qu'il y a un accident du travail à cause des algues vertes.
De ces algues vertes, c'est un dossier hautement politique pour la région. Hein. C'est l'attractivité de la région, c'est le développement du tourisme, c'est l'image de la région. C'est aussi l'agriculture. C'est les modèles économiques qu'on développe en Bretagne. C'est tout ça derrière.
Ils font de l'industrialisation de l'élevage comme on a fait de l'industrialisation au 19e siècle. Sans prendre aucune précaution et en rejetant massivement leurs effluents dans les cours d'eau.
Laurent Goumard.
C'est vrai qu'on n'a pas fait une bonne publicité à toutes nos plages bretonnes là, depuis quelques années. Quoi. C'est évidemment, de suite, on en parle dans les médias. Quoi.
Sur France Inter.
Et on en parle ce soir, en effet, dans le nouveau rendez-vous. L'algue pue et l'algue tue dans le NRV ce soir. L'océan a le mal de mer. On en parle avec nos invités, l'avocat Arnaud Gossemont, la journaliste Inès Léraud, la militante Élodie Martini-Cousty et l'écrivain Yann Kefelec. Alors, depuis des décennies, on le sait, hein, les algues vertes empoisonnent le littoral, celui de la Bretagne, toxiques, nauséabondes. Elles continuent de proliférer malgré les plans d'action qui se succèdent, parce qu'il y en a eu aussi. Élodie Martini-Cousty, vous qui siégez à la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages, hein, c'est une instance administrative qui conseille le ministre de la Transition écologique. Où en est le gouvernement sur ce dossier ?
Ah, le gouvernement nous propose un projet de décret pour déconcentrer les autorisations spéciales de travaux en sites classés.
C'est-à-dire,
oui, c'est très technique. Les sites classés, c'est une loi, la première loi de protection des paysages et de la biodiversité qui est derrière les paysages, forcément, qui date de 1906, renforcée par une loi de 1930 et qui nous a permis de classer le Mont Blanc, le Pont du Gard. Voilà, d'avoir des sites reconnus au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une loi vraiment fondatrice. Jusqu'à présent, les petites autorisations de travaux dans les sites, refaire un chemin, reconsolider un bâtiment qui se dégrade, étaient données par le préfet. Et les autorisations dites spéciales, qui pouvaient modifier le caractère des lieux et l'esprit des lieux pour lesquels on avait classé le site, remontait directement au ministère. Et là, le Premier ministre a dit « déconcentrons et pour que les décisions soient prises au plus près des territoires ». Seulement, quand une compagnie demande sur le Mont Blanc à avoir une création d'une réserve d'eau en plein site classé pour faire de la neige de culture pour ses clients, c'est juste hallucinant. Donc il faut que ce type de demande puisse remonter directement au ministère, que le ministère n'hésite pas à dire non, puisqu'en fait les élus des territoires sont venus demander une reconnaissance nationale pour ces sites majestueux qui sont dans leur territoire. Donc il y a un moment donné, il faut que le ministère garde cette possibilité de dire non et de le dire rapidement pour que les porteurs de projets puissent passer à autre chose.
Et quel rapport avec les algues vertes ?
Le rapport avec les algues vertes, c'est que on a énormément de sites classés en France, beaucoup sur le littoral, parce qu'on a un très très beau littoral, on a su le protéger grâce à la loi littorale, mais grâce aussi à des sites classés, comme le grand site du Cap Sizun et bientôt du Cap Fréhel. En ouvrant la possibilité au préfet de donner ses autorisations, on risque d'avoir des constructions non souhaitées sur le littoral Et donc, une augmentation aussi des pollutions, pas forcément des algues vertes, mais une augmentation d'autres types de pollutions qu'on subit déjà.
Parce que la mécanique est un petit peu la même par rapport aux algues vertes. Quand on va voir les politiques sur le plan local, justement, il y a un frein si on s'intéresse. Sur le plan local, finalement, on a beaucoup fait pour essayer de minimiser. Et quand on sait qu'en plus, au niveau national, il y a des ministres qui sont très proches de ce que vous appelez, que vous décrivez dans la bande dessinée, le lobby breton.
Yvan Le Drian, François de Rugy.
Voilà, par exemple, pour ne citer que. Comment ça se passe avec les politiques par rapport au cas des algues vertes, typiquement?
Bah, c'est vrai que quand on regarde quand on regarde cette histoire, la première algue verte notifiée officiellement dans un conseil municipal, c'était en 1971. Très vite, l'association Eau et Rivières de Bretagne identifie la cause de cette marée verte comme étant les nitrates agricoles, nitrates issus des engrais, des lisiers animaux. La science va reconnaître ce lien entre l'agriculture et les marées vertes au milieu des années 80. Et l'État, lui, va reconnaître ce lien en 1999 seulement. Voilà. Et entre-temps, on voit en effet les lobbies agroalimentaires s'organiser, créer des associations. L'une s'appelle l'Institut scientifique et technique de l'environnement.
C'est toujours bien qu'il y ait Institut scientifique et technique, formidable.
Un nom pompeux pour une simple association loi 1901, qui en fait fait travailler, met à sa tête un scientifique qui plaidera la cause de l'agroalimentaire et pendant jusqu'à aujourd'hui jettera le trouble sur ce lien entre l'agriculture et les algues vertes dans les lycées agricoles, dans la presse agroalimentaire, dans les assemblées générales d'agriculture, en présentant d'autres hypothèses. Donc ces hypothèses sont par exemple que les marées noires auraient détruit la population de bigorneaux, qui eux-mêmes sont les brouteurs de la mer, bien célèbres, donc ils ne pouvant plus brouter les algues vertes, elles prolifèrent.
C'est dingue. Yann Kefelec.
Pardon, j'aime énormément les brouteurs de la mer, les broutards. Les Bernard Lhermitte aussi sont des broutards. Donc on pense tout de suite à des animaux à quatre pattes, assez volumineux. Mais toutes ces petites bêtes, effectivement, qui sont de purs chefs-d'œuvre, sont hélas terriblement menacées par cette pollution.
Alors quels sont les outils juridiques à disposition pour justement faire trembler les lobbies? En augmentant, vous qui êtes avocat.
Il y a une scène dans une bande dessinée qui, moi, m'a beaucoup interpellé. C'est cette scène d'un déplacement du gouvernement de François Fillon avec Chantal Jouanneau sur la plage de Saint-Martin, de Saint-Michel en Grève, où est mort effectivement cette personne, ce cheval, et où a été gravement blessé ce cavalier. Et cette scène est très intéressante parce qu'en fait, à titre personnel, je ne doute pas de la sincérité, non pas de tous les hommes et femmes politiques, mais en tout cas, en l'occurrence, de Chantal Jouanneau, qui s'exprime, qui dit oui, l'État a pris conscience des choses, et au sein de l'État, il y en a effectivement un certain nombre de personnes qui ont pris conscience des choses, mais on a l'impression effectivement d'une forme d'inertie, un État qui n'agit pas, qui sort des plans qui ne servent pas à grand chose. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est de se poser cette question-là. C'est-à-dire, plutôt que se dire, ce sont des pourris, il faut absolument les sanctionner, se dire, mais pourquoi ils ne bougent pas, même quand, de manière sincère, ils veulent bouger? C'est ça qui me paraît plus intéressant. La meilleure réponse, à mon sens, qui a été apportée à cette vraie question, qui m'interpelle en tant que, il y a longtemps, militant et actuellement avocat, la meilleure réponse, c'est celle qui a été donnée par une navigatrice qui s'appelle Hélène MacArthur, hein, qui a été très sensibilisée lors de ses périples par la présence des déchets en mer, qui s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour limiter ce qui est la principale source de pollution des mers? Et encore, à la surface, on ne voit qu'entre 1 et 10% de ce qu'il y a au fond des mers en termes de gisements de plastique. Et cette navigatrice se dit, il faut cesser d'opposer écologie et économie. Le politique a peur de faire de l'écologie en se disant ça va menacer des emplois, ça va menacer une filière agricole.
C'est toujours ce qui est donné comme critère.
Et elle se dit, on va créer un concept, bon, qui existait déjà avant elle, mais c'est elle qui l'a popularisé, le concept d'économie circulaire, auquel je crois beaucoup, en se disant on va utiliser l'économie pour faire de l'écologie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de gagner de l'argent en protégeant la planète. Une idée évidemment naïve, mais qui donne une sorte d'idéal à poursuivre qui me paraît extrêmement intéressant et beaucoup plus puissant effectivement que la stigmatisation parfois du politique en disant pourquoi une fiche rien. Pourquoi une fiche rien, c'est aussi notre responsabilité en tant que consommateur, que salarié, qu'électeur, etc., etc. Et ça, je trouve ça intéressant. Donc oui, il y a des outils juridiques. Et il est heureux que les associations forment les recours qui doivent être formés. Mais il y a aussi une culture économique à créer dans ce pays pour en sortir de cette opposition entre écologie et économie.
Quelles sont les actions que vous menez, justement?
Nous, on avait fait une très très belle campagne pendant le Salon de l'agriculture, il y a quelques années, avec des affiches dans le métro où on voyait un enfant qui jouait avec un seau sur une plage couverte d'algues vertes.
C'était en 2011. Avec,
voilà, tout à fait. Et on souhaitait bonnes vacances. Et on n'avait pas marqué en Bretagne. On a eu un recours du président du conseil régional à l'époque, Monsieur Le Drian, parce qu'on stigmatisait la Bretagne. Et on a gagné, bien sûr, puisqu'il n'y avait pas marqué que c'était en Bretagne. Donc maintenant, je peux vous le dire. Et tout le monde le sait. Mais
on en parle
fait...
dans l'album. Ouais, et Jean-Yves Le Drian avait dit « Je ne peux laisser la Bretagne, notre région, être salie de cette manière par France Nature Environnement. »
Et tout le monde avait reconnu, bien sûr, où c'était. Mais le pire, si vous voulez, c'est que les algues vertes, elles vont, bien sûr, sur l'estran breton, mais elles descendent par le réseau hydrographique extrêmement dense qu'on a en Bretagne, en Loire-Atlantique et jusque dans l'estuaire de la Gironde. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de regarder si tous les projets qu'on nous propose sont compatibles avec la reconquête de la qualité de l'eau. Et quand on voit, par exemple, que bientôt il y a encore un projet d'extension de porcherie à côté, à la pointe de la Bretagne, pour lequel le parc marin d'Iroise doit donner son avis, parce que ça aura une conséquence directe sur la qualité des eaux de ce parc marin, eh bien on est content que le parc marin puisse encore donner un avis. Mais c'est tout récent, donc si vous voulez, ça n'arrête jamais. En fait, le système, il faut qu'on trouve un autre moyen pour changer ce système. Et ce qu'il y a de pire, c'est que les éleveurs de cochons ne gagnent pas leur vie. Les éleveurs de cochons industriels ne gagnent pas leur vie.
C'est la grande question qu'il faut poser dans cette émission. Savoir si l'économie circulaire a une petite chance de fonctionner et savoir s'il y a une réversibilité du système ou pas. Si la transition énergétique est un combat d'ores et déjà perdu ou s'il y a une petite chance d'espérer.
Arnaud Gossemont, sur ce dossier, alors, il y a une petite chance d'espérer ?
Mais je suis extrêmement optimiste, oui. D'abord, il y a des choses qui se font et que je trouve extrêmement intéressantes. Il y a effectivement des sources de déchets qu'on arrive à réduire ou à mieux traiter. Donc ça, je trouve que c'est très encourageant. Et alors, vous voyez, parfois, le politique, on critique beaucoup. Mais là, il y a un projet de loi qui est sur la table qui, enfin, s'attaque à la principale source de déchets dans notre pays, les déchets de démolition. Il faut savoir que le bâtiment en France génère à peu près 46 millions de tonnes de déchets. C'est loin devant toutes les autres sources de déchets. Et si je prends déchets, bâtiments publics, routes et bâtiments, on est à plus de 300 millions. La principale source, enfin, on a un gouvernement, effectivement, qui va s'attaquer à ce problème-là et qui pose des règles qui seront possiblement très intéressantes si elles sont bien appliquées. Parce que le problème, c'est que on a un code de l'environnement qui est assez bien fichu. Je ne parle pas des tentatives de simplification complètement stupides qui n'apportent rien à personne. C'est de la démagogie pure, hein, ce que tu disais tout à l'heure. Mais on a un code de l'environnement qui est assez bien fichu. Notre problème en France, c'est l'application de ce code. C'est d'avoir des fonctionnaires pour les appliquer. Et c'est aussi à l'intérieur des entreprises d'avoir des personnes qui connaissent ces règles-là de manière à les anticiper et à faire en sorte que l'entreprise ne les subisse pas de plein fouet lorsqu'il est trop tard, mais au contraire, en fasse une opportunité. Donc c'est pour ça que je suis très optimiste, effectivement.
Eh bien alors, on va continuer pour la troisième partie. Si tout le monde est optimiste, je vous propose d'ici là d'écouter un dandy timide de la chanson française, initiateur de sieste musicale. Ça peut vous plaire, Benoît Lagan.
Oui.
Surtout. Oui, musical non, hein, bien sûr. Bastien Lallemand chante avant midi, mais il était temps.
Viens, mon ami, partons le cœur léger, la route est longue. Avant midi, nous devons arriver, la route est longue. Longtemps, j'ai douté longtemps. Je l'ai redouté, le moment est arrivé de te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Oh les cœurs, avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. Combien j'ai goûté ton amitié, jamais n'oublierai nos balades dans les fourrés. Je t'emmène faire un tour, le dernier tour des fossés. Allez, avançons. Il ne faut pas traîner, la route est longue. Avant la nuit, je dois être rentré, la route est longue. Combien de sillon labouré. Combien de saisons et combien d'acres de blé. Les années, mon vieux, ont passé. Ce que la vie nous a gâté. Donne-moi ton dernier trot, la route est longue. Avant midi, le glas devra sonner, la route est longue. Longtemps redouté, longtemps, je l'ai repoussé, le grand jour est arrivé. De t'emmener faire. Le dernier tour de nos prêts.
Le nouveau rendez-vous,
on l'appelle le continent plastique. Il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France.
Cette année, dans le monde, la production de plastique dépassera les 300 millions de tonnes, dont la moitié sera utilisée une fois, puis jetée.
Sans aucun doute,
Laurent Goumard,
cet oiseau est mort à cause du plastique. Il en a plein les intestins.
L'océan est en grand danger. Selon une prévision, d'ici 2050, il y aura au poids autant de plastique dans l'océan que de poissons.
Sur France Inter.
Autant de plastique dans l'océan que de poissons.
Oui, et Hélène MacArthur qui dit le dit.
Ouais, en 2050, l'océan est attaqué de toutes parts. Il n'y a pas que les algues vertes, il y a aussi les nanoparticules, les munitions, vous disiez, Élodie Martini-Cousty, c'est-à-dire.
Oui, c'est-à-dire que à la fin de la guerre 14-18, on a balancé toutes les munitions pleines de gaz moutarde en mer du Nord et le long de nos côtes de Manche, mer du Nord.
Et dans la Baltique.
Et dans la Baltique, ouais. Et eh bien, il faudrait aller les rechercher parce que le simple fait que le gaz moutarde puisse se diffuser et la quantité de munitions qu'on a jetées fait que si on voulait protéger vraiment notre milieu marin, c'est ça qu'il faudrait faire en premier. Donc les Allemands le font, les Belges le font, mais nous on le fait pas et c'est dramatique.
Il y a aussi donc toute la... Vous voulez rajouter quelque chose, Inès
Leroux?
C'est dit une prochaine bande dessinée. Elle voit déjà une prochaine bande dessinée arriver pour un dossier. Il y a aussi, bien sûr...
Nous avons aussi les sous-marins nucléaires russes dans l'océan glacial. Et là, on ne sait même pas dans quelle quantité. Eux, ils se contentent d'immerger leurs sous-marins avec leurs réacteurs nucléaires. Tout ça se répand dans l'atmosphère allègrement. Ça aussi, ça fait partie des pollutions terribles dont... On ne souligne pas suffisamment.
Alors, dimanche dernier, lors d'une réunion des ministres de l'Environnement du G20 au Japon, les pays sont parvenus à un accord de réduction des déchets plastiques en milieu marin. Ils n'en ont pas dit plus. Vous en savez plus, vous, Élodie Martini-Cousty, vous qui suivez le dossier Océan pour France Nature Environnement?
Alors, je vais vous dire, j'en sais pas plus, parce que rien qu'en France, on nous annonce là qu'on va recycler nos déchets plastiques. Mais qui a pu avoir cette idée-là? Il faut d'abord arrêter d'en produire. On en produit 800 000 tonnes et quand on parle aux parlementaires, ils disent « Oh ben non, il faut apprendre aux gens à pas les jeter dans la nature ». Mais on leur dit « Mais vous servez à quoi ?» Il y a un moment donné, si vous voulez, on sait très bien que ce qui arrive sur nos étals, qui arrive de l'autre bout du monde, qui doivent avoir 3 ou 4 emballages différents avant qu'on ouvre l'emballage et qu'on finisse par manger ce qu'il y a dedans, eh bien, ça a produit 4 emballages pour simplement un produit alimentaire. Donc, recycler ces produits-là, c'est une hérésie parce que ça va consommer de l'énergie. Et puis, en les recyclant pour faire des bouteilles d'eau, par exemple, on va concentrer
dans
les polluants
qui sont dedans. Dans le bâtiment, maintenant.
Et dans le bâtiment aussi. Donc, en fait, la réponse à ça, c'est arrêter de produire autant de plastique. Et pour en produire moins, il faut consommer local et bio. Voilà, c'est tout simple.
C'est
circuit court, circuit proche de chez vous. Vous n'avez pas besoin d'emballage si vous allez plastique x4 pour un aliment si vous allez l'acheter à votre producteur local.
Enfin, donc, à Paris, les producteurs locaux, enfin, vous direz, tout le monde ne vit pas à Paris, mais oui.
Non, mais on en trouve. Et puis, on en trouve de plus en plus près de chez vous. Vous avez des magasins où vous trouvez des cajots, et là, vous pouvez vous servir avec votre sac. Il n'y a pas d'emballage plastique pour le chou, le navet, la carotte, la fraise, voilà.
Yann Kefelec.
Mais est-ce qu'il est raisonnable d'imaginer qu'on puisse revenir sur la production du plastique? Il y a du plastique absolument partout, 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 partout.
Il est tout à fait raisonnable de le penser et vous verrez que dès que le pétrole va réaugmenter, on va avoir des gens qui vont dire « Ah bah non, ça ne va plus être possible d'emballer notre tomate à 0,5 euros avec un emballage qui va nous coûter 0,3 euros. » Donc c'est aussi une question économique. On a produit des tonnes et des tonnes de plastique quand le pétrole était peu cher et j'espère qu'il va remonter parce que sinon, ça va être...
Vive le pétrole cher, c'était la nouveauté
du nouveau rendez-vous. On arrive à des contradictions
complètement absurdes.
C'est dingue.
Arnaud Gosseman, par rapport au plastique qu'on trouve dans les océans, il y a des choses sans doute à faire, sauf que les océans, le statut juridique des océans, c'est très compliqué. Aujourd'hui, l'océan, il appartient finalement à tout le monde, et quand on a à devoir agir à ce niveau-là, on agit où? On agit face à qui? Face à quel type d'institution?
Pour protéger les océans qui appartiennent à tout le monde, donc c'est à personne.
L'océan n'a pas de personnalité juridique et n'a pas non plus les procès de l'Erika l'ont montré notamment. Il y a un problème de statut juridique puisque l'essentiel des conventions internationales qui régissent la vie en mer sont des conventions internationales sur le droit des travailleurs en mer, sur le trafic maritime, sur la capacité pour un État de maîtriser sa zone économique exclusive. Il y a assez peu de choses sur l'environnement même dans ces conventions internationales. Mais c'est pas forcément un souci dans tous les cas. Sur les dégazages et sur les pollutions maritimes, on peut agir malgré tout. Sur les dégazages, notamment France Nature Environnement a beaucoup gagné de procès et fait condamner soit des capitaines, soit des affréteurs sur ces dégazages. Sur les grandes pollutions maritimes, on arrive à trouver les responsables. La preuve avec l'Erika, par exemple, Moco Cadiz. Donc on peut trouver les responsables avec des droits nationaux ou européens. Et puis sur la pollution plastique, comme le problème vient de la Terre, c'est ici qu'il faut s'en occuper. C'est pas tellement en océan. La plupart des pollutions de l'océan ne viennent pas de l'océan lui-même. Je parle pas des explosions de plateformes pétrolières, deepwater, etc. Mais la plupart au quotidien, ce sont effectivement des pollutions maritimes qui viennent de nos cours d'eau,
qui viennent des fleuves, pollution. Des fleuves extrêmement polluants.
Oui, ou tout simplement des plages parce que les vacanciers balancent leur mégot de cigarette. Le mégot de cigarette est une source, un fléau.
C'est du plastique. C'est du plastique. C'est du plastique, oui.
Exactement, et des métaux lourds, etc. etc. Donc c'est vraiment un fléau. Si vous voulez être écolo, arrêtez de fumer, très sincèrement, ça, c'est l'un des premiers gestes que vous pouvez faire. Je veux dire par là qu'on a des solutions. Alors, je modérerai un tout petit peu ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que il faut à la fois, effectivement, tarir la source, se passer du plastique. Mais là aussi, je suis optimiste. Regardez un petit peu le boom extraordinaire du bio en France, que ça soit sur la surface agricole utile. Il y a eu beaucoup d'articles la semaine dernière. On est à 10%. Ça progresse énormément. Le chiffre d'affaires du bio distributeur comme agriculteur explose, contrairement à celui des autres agriculteurs. Donc là-dessus, il se passe quelque chose. Et le bio en surface bio n'est pas enveloppé. Je ne parle pas du bio en surface conventionnelle qui est enveloppé pour le distinguer du conventionnel. Ça, c'est un petit peu aberrant de voir des pommes bio dans un emballage plastique, parce que ça permet de les différencier des pommes qui ont des pesticides. J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Ouais. Donc il y a encore des aberrations du système.
Une pollution contre une autre, quoi. C'est vraiment dingue.
Il y a des aberrations du système. Mais globalement, sur cette source de déchets qui vient de la Terre, les instruments juridiques sont de plus en plus performants. L'Union européenne vient d'interdire, à partir de 2021, tous les plastiques à usage unique de manière assez claire. Que ça soit les touillettes, que ça soit les pailles, que ça soit les gobelets, la vaisselle jetable et tous ces machins-là, ça sera interdit en 2021. C'est trop tard, mais en même temps, ça avance quand même.
Yann Kefelec, vous.
Est-ce que la chirurgie peut se passer du plastique? Est-ce que l'aviation peut se passer du plastique? Est-ce que l'informatique peut se passer du plastique? Etc, etc, etc. Donc, c'est vrai que le serpent en plastique se mord la queue toute la journée.
Ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci à Arnaud Gosseman, Élodie Martini-Coustis. Je renvoie sur le site de France Nature Environnement. C'est fneu.asso.fr. Inès Leroy, Algues vertes, l'histoire interdite, ça vient de paraître chez Delcourt. Et Yann Kefelec, Dictionnaire amoureux de la mer et celui de la Bretagne sont disponibles chez Plon. En attendant, bien sûr, le grand retour pour la rentrée littéraire. Demain est une autre nuit. Très beau titre qui pourrait convenir pour le nouveau rendez-vous. Ce sera chez Calman Lévy.
Le nouveau rendez-vous. Laurent Goumard. Sur France Inter.
I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean.
C'est la soul noire des Texans de Black Puma qui clôt ce NRV océanique, car oui, le NRV c'est fini. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain dès 18h en avant-première sur franceinter.fr ou alors à 22h jusqu'à minuit à l'antenne comme tout le monde. On reste aussi en lien sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram avec le hashtag NRVFI. À la réalisation ce soir, Anne-Cécile Perrin et Juliette Medevielle. Pour la préparation, on a compté sur Virginie Rosic, Corinne Valente, Laure Grand-Besançon, Benoît Lagan, Gaëtan Lévy et Louise Achos. À la technique, ils sont deux, Maxime Ingrand et Charles Pélabon. Demain, émission Tête d'affiche, tous en live, et on sera là avec lui. Neil Anon pour un nouvel album de The Divine Comedy, Marc Collin, Nouvelle Vague et Choc du Futur, et puis le retour de La Féline dans le NRV de la suite, Iran, USA, c'est de la bombe. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir, alors à demain.